10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera ce journal en Tunisie, où des milliers d'étudiants manifestaient hier leur soutien aux Gazaouis, victimes des bombardements israéliens. La Côte d'Ivoire ensuite et cette grève de 48 heures dans les écoles publiques, primaires et secondaires. Le Niger, qui se sépare du français comme langue officielle, l'Haoussa, est désormais la langue nationale. Et puis, les pays du continent qui ajustent leur réponse après la hausse des droits de douane américains. Nous serons dans ce journal à Accra, où le chef de la diplomatie ghanéenne recevait hier l'ambassadrice américaine dans l'espoir de négocier des exemptions. Des milliers d'étudiants dans les rues de Tunisie hier. À Tunis et plusieurs autres villes, les syndicats étudiants avaient appelé à manifester en solidarité avec les Palestiniens et pour réclamer la fin des bombardements israéliens à Gaza. Et la jeunesse tunisienne a donc massivement répondu présent, comme l'a constaté Lilia Blaise dans la capitale. Reportage.
Après plusieurs manifestations durant le week-end, la marche plus massive des étudiants en grève ce lundi a redonné de l'élan à la mobilisation pour la cause palestinienne en Tunisie, selon Myriam, 24 ans.
Ces derniers jours, il y a enfin eu un regain de mobilisation partout dans le monde et aussi dans le monde arabe, vu ce qu'il s'est passé. Le génocide et les derniers bombardements, surtout, c'est impossible de ne pas réagir. Donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague de manifestations et d'appels au boycott parce que malheureusement, nous sommes tous habités du sentiment d'impuissance face à ce qu'il se passe. Donc notre seule option, c'est la rue.
Cette étudiante en médecine a revêtu sa blouse blanche pour exprimer son soutien à tous les médecins qui tentent encore de sauver des vies sur place. Riem Nafati, 19 ans, étudiante en classe préparatoire littéraire, est venue renforcer les rangs avec toute sa classe.
Bien sûr, Ramzi.
Cette manifestation est très symbolique parce qu'elle émane des jeunesses et il faut continuer à se mobiliser, surtout pour que les gens n'oublient pas ce qu'il se passe sous nos yeux et l'importance de la cause palestinienne.
Les syndicats étudiants, à l'origine de la manifestation, ont également appelé à intensifier les mouvements de protestation et poursuivre le boycott de tous les produits et marques en relation avec les entreprises israéliennes. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Manifestation en soutien des Palestiniens hier également à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Plusieurs syndicats de l'enseignement privé et public, des oulémas et des figures de la société civile se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis. Les manifestants réclament l'expulsion de l'ambassadeur américain pour le soutien appuyé de Washington à Israël. Une grève dans le secteur scolaire de Côte d'Ivoire. Deux centrales syndicales ont appelé à un débrayage de 48 heures dans les écoles publiques, primaires et secondaires. Un mouvement enclenché alors que le ministère de la fonction publique menace de licencier les enseignants en grève. On fait le point sur ce mouvement, ses revendications et la réaction du gouvernement avec Binta Diagne.
Au collège moderne de Mputo, des élèves s'occupent en attendant leurs professeurs. Certains font leurs devoirs, d'autres révisent leurs leçons.
Normalement, on a cours à 8h25 avec un professeur d'espagnol.
Et là, qu'est-ce que vous faites avec vos cahiers actuellement ?
On devrait se mettre à jour puisqu'on est très en retard sur les cours de physique-chimie.
En milieu de matinée, dans la commune d'Abobo, plusieurs dizaines d'élèves quittent l'école dépités.
Ça nous perturbe beaucoup parce que nous sommes en classe d'examen. Donc, on devait bosser, faire les cours, mais eux ne viennent pas à cause des grèves. Ça nous fatigue.
Ce mouvement est initié par deux centrales syndicales. Les enseignants réclament l'octroi d'une prime d'incitation. Des discussions sont en cours depuis octobre dernier, mais les syndicats accusent le gouvernement de faire traîner les négociations. David Bliblé, le porte-parole de ce mouvement.
Le taux de suivi est vraiment exemplaire au niveau de l'enseignement secondaire général, avec un taux de 97,69%.
Pour le gouvernement, cette grève est illégale, car elle contredit l'esprit de la trêve sociale qui prévaut jusqu'en 2027. Xavier Fouet, conseiller en communication au ministère de l'Éducation.
Le dialogue n'a jamais été rompu. On ne comprend pas pourquoi, au moment où le comité d'experts mis en place par le comité consultatif de la fonction publique est en train d'analyser et d'examiner tous les dossiers, que des organisations syndicales décident d'aller en grève.
En octobre dernier, un mouvement social similaire avait conduit à la suspension de salaire pour 26 enseignants grévistes. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Justice au Bénin, où le procureur n'a pas pu prendre ses réquisitions et les avocats n'ont pas pu plaider hier dans le procès du cybermilitant Steve Amoussou, accusé d'être le frère Unvi, une voix critique du président Talon. Il est poursuivi pour provocation à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique. Mais après un débat d'une heure environ, hier, le président a renvoyé le réquisitoire et les plaidoiries au 14 avril. Une décision confirmée à La Haye. La Cour pénale internationale confirme en effet les dommages et intérêts prononcés dans le dossier du centrafricain Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Il purge actuellement une peine de 25 ans de prison. Les juges entérinent donc pour les quelques 50 000 victimes la somme de 52 millions d'euros. Une réunion de crise attendue en RDC autour de Félix Tshisekedi après les inondations qui ont fait au moins 30 morts dans la capitale Kinshasa, selon le bilan officiel encore provisoire. Le président s'est déjà rendu hier au chevet de certains sinistrés accueillis en urgence dans un stade de la ville. Mais la polémique gronde sur la responsabilité des autorités accusées d'avoir mal anticipé. Certaines voix réclament la démission du gouverneur de la ville. On l'entendait ce matin sur RFI et ses inondations à Kinshasa. Vous en parlerez d'ailleurs après ce journal dans la deuxième partie d'Appel sur l'actualité.
RFI.
Au Niger, la charte de la refondation est désormais en vigueur. Le décret prévoyant sa promulgation a été publié la semaine dernière. Un texte issu des assises nationales validé par Abou Rahman Tiani lors d'une cérémonie organisée le 26 mars dernier. Il vient donc en lieu et place de la Constitution qui a quant à elle été suspendue après le coup d'État de juillet 2023 contre Mohamed Bazoum. Et parmi les changements notables ici, Magali Lagrange, le français n'est plus la langue officielle du Niger. Place à l'Haoussa comme langue nationale.
Le français devient une simple langue de travail. L'article 12 de la charte de la refondation ne mentionne plus de langue officielle. Il liste les 11 langues parlées du Niger et définit l'une d'entre elles comme langue nationale, le Haoussa. C'est la plus parlée sur l'ensemble du territoire. Elle est comprise, selon un linguiste que nous avons pu joindre, par une grande majorité de la population. Vient ensuite le Zarma Sonrai, la langue de l'Ouest, parlée par à peu près un quart des Nigériens. Dans la constitution précédente, les langues de toutes les communautés du Niger avaient en toute égalité statut de langue nationale. Le français, parlé par 13% de la population, était donc la langue officielle. Mais les nouvelles autorités, en froid avec Paris, ont quitté l'Organisation internationale de la francophonie le mois dernier et rebaptisé récemment plusieurs rues de Niamey qui portaient des noms de français. Reste à savoir si ces changements linguistiques auront des conséquences concrètes. Sur les réseaux sociaux, certains internautes nigériens s'inquiètent d'une hiérarchisation des langues du pays et d'un risque de communautarisme.
Magali Lagrange, peine réconciliée avec la France, aussitôt fâchée avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. L'Algérie est engagée dans une nouvelle passe d'armes diplomatique avec le Mali, soutenu de son côté par le Niger et le Burkina Faso. Alger est accusé d'avoir abattu un drone malien en territoire malien, mais en face, la diplomatie algérienne affirme que l'appareil a été détruit sur son territoire. Après le rappel des ambassadeurs respectifs, l'Algérie et le Mali ont réciproquement fermé leurs espaces aériens hier. Un dossier qu'on évoquait ce matin avec notre invité, l'essayiste nigérien Sedi Kaba, entretien à retrouver sur Internet, bien sûr. Le secrétaire d'État à la Défense britannique en déplacement au Kenya hier, John Elley, auprès de la famille d'Agnès Wanjiru. Cette jeune femme de 21 ans, dont le corps avait été retrouvé lacéré de coups de couteau en 2012 dans le centre du pays, après avoir été aperçue en compagnie d'un soldat de la Batouk, l'unité de la formation de l'armée britannique au Kenya. Une affaire qui remonte donc à 13 ans, mais depuis, la famille d'Agnès Wanjiru réclame justice. L'onde de choc qui continue de se propager après la hausse des droits de douane imposés par les États-Unis. Les pays concernés tentent d'ajuster leurs réponses, c'est le cas notamment au Ghana. Accra cherche à limiter les conséquences de cette hausse. Le chef de la diplomatie ghanéenne rencontrait ainsi hier l'ambassadrice américaine. Compte rendu avec Victor Cariou.
Le pétrole et les produits énergétiques ne sont pas affectés par les nouveaux droits de douane. Voici la seule et unique assurance concrète qu'a exprimée Virginia Palmer, l'ambassadrice des États-Unis au Ghana, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères ghanéen. Un soulagement pour le pays d'Afrique de l'Ouest, le pétrole représentant 60% de ses exportations vers son partenaire américain. Le reste, cependant, demeure très flou sur la question du cacao, par exemple. Le deuxième produit le plus exporté vers les États-Unis, désormais taxé à hauteur de 10%, a seulement fait l'objet, je cite, de discussions pour une éventuelle exemption de droits de douane sans plus de précision. Quant aux moyens de limiter les conséquences sur l'emploi et l'économie au Ghana, c'est encore moins clair. Le ministère des Affaires étrangères ghanéen évoque uniquement le maintien de discussions continues par des voies diplomatiques. Contactée par RFI, l'ambassade américaine au Ghana a quant à elle indiqué que cette réunion visait surtout à rassurer le gouvernement ghanéen de l'importance de leurs relations bilatérales. Victor Cariou, Accra, RFI.
Accra, oui, il est 8h, bientôt passé de 40 minutes. 10h40 ici, à Paris. Comme tous les jours, on retrouve bien sûr la deuxième partie d'appel sur l'actualité. Juan Gomez, c'est à vous.
Merci infiniment, Sébastien Duhamel. Bonne journée, prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine.